Alors finalement, on a encore une société nationale des chemins de fer et on est en droit de lui demander le meilleur. Et j'ajouterai, moi, deux points, puisqu'on exige que les usagers soient informés. C'est la dernière ligne de cette motion. Je pense qu'il est temps aussi que la SNCF informe les usagers sur la ligne en direction du Luxembourg. Je ne parlerai pas de la responsabilité du Luxembourg qui est lourde parce que les travailleurs frontaliers vivent un cauchemar. On a toujours l'impression que ça va aller mieux. Depuis que la région Grand Est a pris les choses en main, il y a certaines choses qui ont été remises en situation hein, parce qu'ils n'avaient pas été anticipées. Des décisions qui n'avaient pas été prises sous l'ère Masseret, mais il reste une situation qui est extrêmement préjudiciable pour des personnes qui, dans leur vie quotidienne, sont impactées. Et ça mériterait, je pense, également une motion ou un ajout, parce que c'est aussi important que les liaisons vers Paris. Et puis, pour aller de l'autre côté, entre Metz et Strasbourg, depuis que la région... c'est élargi donc jusqu'à Strasbourg. Je ne suis pas la seule à prendre le train assez souvent. Et je constate que depuis 2015, depuis fin 2015, le début de la région Grand Est, eh bien, les dessertes sont de plus en plus mauvaises pour nous, médecins. On arrive souvent à devoir passer par Nancy, voire par Sarrebourg, pour arriver à Strasbourg, ce qui est quand même un comble pour une ancienne capitale régionale. Et encore un mot pour aller encore plus loin. Paris, Francfort, en passant par Metz, en passant par Sarrebruck, c'est aussi une ligne qui n'est plus du tout naturelle. On passe par Strasbourg, désormais. Et notre métropole des liaisons transfrontalières n'est plus du tout aussi naturelle. Il faut maintenant changer la plupart du temps ou assez souvent à Forbach. Et pour une ville qui est aussi proche de la nôtre, ça n'est pas normal. Donc si on ouvre la ligne des doléances vis-à-vis de la SNCF, je pense qu'on peut en discuter aussi longtemps que de l'université.
Voilà. Merci, Madame Singer. Ensuite, Madame Bourri.
Alors, Monsieur le Président, chers collègues, ça ne se dit pas, c'est politiquement incorrect, mais je vais quand même le dire, c'est quand même du foutage de gueule. La SNCF a effectivement abusé de notre territoire et de nos contribuables qui ont payé largement les infrastructures pour ce TGV et qui font que les contribuables, nos concitoyens, sont en droit d'utiliser partout où cela existe et sans condition particulière le TGV, que ce soit vers Paris, Lyon ou même Nice. Nous ne pouvons pas tolérer, alors que nous sommes une métropole jeune, certes, mais une métropole tout de même, et surtout une métropole en contact direct avec trois autres pays limitrophes, au cœur même de l'Europe, d'être considérée à Metz comme une vulgaire banlieue de Nancy, avec moins d'horaires, des prix plus élevés, et surtout des trajets qui se rallongeraient. Si la SNCF, sincèrement, a un problème de gestion et de mauvaise gestion, c'est son problème, ce n'est pas à nos contribuables, en tous les cas, de payer pour cela. Notre territoire, je veux parler surtout là de la Lorraine, plus généralement, a pris sa part à l'époque et fait preuve de volonté politique en participant activement au développement des infrastructures. Nous devons donc rappeler à la SNCF, effectivement, la mission qui était et est toujours la sienne. Dans n'importe quel contrat, en tous les cas, ce qui est clair, c'est que quand l'objectif n'est pas respecté, il y a des clauses. Et la SNCF, aujourd'hui, a soit le devoir... envers nos contribuables de faire le nécessaire, soit elle les rembourse. Cette motion est donc importante, Monsieur le Président, mais je vais dire une chose, c'est que je pense qu'elle n'est pas suffisante, si vous me le permettez. Il m'apparaîtrait en fait important de modifier cette motion pour y intégrer deux autres composantes. La première, c'est que nous devons entamer cette démarche de manière proactive et déterminée, mais avec l'aide du Grand-Duché du Luxembourg, qui invariablement est également impacté par cette situation, car cette question de mobilité ferroviaire dépasse largement nos frontières. Et pour reprendre vos mots, notamment, Monsieur le Président, que j'ai pu lire lors d'une interview que vous avez donnée, notamment au Papar Gem, qui est quand même un magazine assez prisé à Luxembourg, vous disiez vous-même il faut jouer le transfrontalier gagnant-gagnant en travaillant avec le Luxembourg de manière convergente et lisible. Et vous savez, un TGV absent ici, c'est aussi un TGV qui est absent là-bas. Hein. D'ailleurs, je ne sais pas si vous savez à quelle heure part le dernier TGV de Luxembourg pour aller vers Paris le matin, mais il est à 6h40. Donc je pense qu'à mon avis, le Luxembourg serait peut-être très intéressé, peut-être pour travailler avec nous sur ce sujet-là. Et c'est d'autant plus important, comme l'a souligné une de mes collègues, quand on constate et surtout que l'on vit, et moi je suis bien placée pour vous en parler, les difficultés quotidiennes et la galère des frontaliers, le diktat qui est imposé par la SNCF, hein, faute de concurrence, justement, en matière de mobilité transfrontalière avec des retards à répétition, des suppressions faute de matériel roulant, alors ça c'est quand même extraordinaire, ou alors de l'absentéisme, parce que le matin, bah, très souvent, il n'y a personne pour conduire effectivement le TER. Et j'en passe en tous les cas pour les TER vers le Luxembourg. Alors, nous avons alerté depuis des années les difficultés des frontaliers sur les conditions de transport. Je sais que vous avez récemment été dans un TER avec le président de la région, mais c'est au tour aussi de notre population, de l'ensemble de notre population, de vivre exactement les mêmes conséquences. Alors, sans mobilité, comment on peut attirer également des investisseurs sur notre territoire, hein, et qui sont notamment désireux d'avoir des interconnexions rapides et régulières, et comment aussi les pérenniser ceux qui sont ici. Donc ça, c'est quelque chose d'important aussi. La présente motion doit également comporter un second volet, parce qu'il appartient également à l'État d'agir. Et je pense qu'il faut également le mettre dans cette motion, hein, les deux volets, intégrer le Luxembourg et intégrer l'État. Hein. J'aimerais donc... parce que tout ce que l'on peut voir, c'est que nous ne pouvons que déplorer le trop faible soutien de l'État dans le domaine des mobilités sur notre territoire. D'ailleurs, ce manque de soutien est tellement visible qu'on n'a toujours pas vu l'ombre de concrétisation des engagements, notamment qui ont été pris le 22 mars 2018, à l'issue notamment de la conférence infragouvernementale France-Luxembourg, et qui prévoyait notamment 120 millions d'euros d'investissement partagés sur 10 ans dans le domaine des mobilités. Alors moi, je suis évidemment également consternée par ce manque de réactivité de l'État, et je pense quand même que nous avons effectivement des députés qui sont assez proches du président. Je pense qu'il faudrait également les associer de manière beaucoup plus active sur ce sujet. Je vous remercie.
Merci, Madame Bory. 2 minutes. Montre en main.
Non, je ne vais pas être trop longue, mais simplement, je suis étonnée que tout le monde s'étonne de la situation, parce que cette situation, ce qu'on vit aujourd'hui, ça s'appelle la réforme de la SNCF. Voilà, et qui a été votée il n'y a pas longtemps par beaucoup de parlementaires, une majorité de parlementaires et même des parlementaires locaux. Et je suis étonnée quand même peut-être que quand ils ont voté, ils pensaient que la réforme ne toucherait pas Metz. Bah si, ça touche Metz, parce qu'une réforme, ça peut toucher tout le monde. Donc je suis assez étonnée de toutes ces réactions. Et puis en fait, cette réforme qui s'appelle la réforme SNCF, elle était mise en... on a mis en avant le statut des cheminots. Vous savez, c'est Nanty là qui crée la dette de la SNCF. Et en fait, cet argument du statut ne faisait que cacher l'objectif de cette réforme. C'était la mise en concurrence et la rentabilité. Et vous savez que les low cost, à un moment, ça dessert aussi le service public. Ça affaiblit le service public. On l'a vu pour les low cost aériens, etc. On voit bien qu'après, c'est un affaiblissement du service public. Et ensuite, elle a ses conséquences, cette réforme. Et les conséquences, c'est d'abord l'isolement des territoires les plus en difficulté de reconversion. Alors, si des améliorations ont été apportées dans le Metz-Paris-Paris-Metz, on va dire, même si ce n'est pas encore super génial, il n'en demeure pas moins que la desserte vers le sud n'est toujours pas réglée. Et que ça pose quand même un problème de mobilité et aussi un problème d'isolement. Alors, de toute évidence, là, on voit bien que l'aménagement du territoire n'est une préoccupation ni pour la SNCF ni pour le gouvernement. Et de toute évidence, cette réforme n'a pas été faite pour nous faire aimer le train, alors que nous sommes devant une urgence écologique que plus personne ne conteste. Le transport, alors juste pour dire que le transport en général est le premier secteur d'activité responsable du tiers des émissions de gaz à effet de serre, Le rail ne représente que 2% de l'énergie consommée et 0,8% du CO2 émis par le secteur des transports pour 10% du trafic. C'est ainsi le mode le plus économe en énergie fossile et le moins émetteur de pollution. Développer le service public ferroviaire revêt aussi un enjeu de santé et de sécurité publique en lien avec l'accidentologie et la pollution occasionnée par la route. Donc l'OMS chiffre à 45 000 le nombre de décès imputables à l'ozone et aux particules en France, dont les coûts sont externalisés par les collectivités. Donc vous voyez, je pense que faites cette réforme qui se voulait, qui attaquait en premier le statut de ces privilégiés, en fait, n'est que un projet libéral et avec les conséquences que nous vivons ici. Merci.
Merci, Madame Migaud.
Oui, merci, Monsieur le Président. Je voudrais simplement vous donner deux exemples concrets pour vous montrer combien cela a un impact sur la vie des usagers. J'ai voulu emmener mes élèves à Paris, mes élèves de CM2, un peu motivés d'ailleurs par le mouvement des Gilets jaunes. Je me suis dit que si mes élèves connaissaient la ville de Paris, que ça devenait leur capitale, peut-être qu'on verrait plus des tags sur l'Arc de Triomphe. C'est une des choses qui m'ont motivée. Eh ben, c'est galère pour réserver un voyage de groupe avec la SNCF. Alors, pour donc des élèves de 10 ans, hein, il faut qu'ils partent à 6h50. Les autres trains, c'est pas la peine, on peut pas réserver pour un groupe. Et puis alors après, quand j'ai eu l'interlocutrice au téléphone, il fallait le voyage du retour. Eh ben, je pouvais pas revenir de Paris. C'était pas possible de réserver tous les autres trains à des heures à peu près correctes. Ben non, c'était pas réservable pour un groupe. Alors, c'est moi qui ai eu l'idée de lui suggérer, mais est-ce que je peux revenir par un Ouigo ? Alors oui, j'ai pu réserver par le fameux Ouigo de 16h10 pour revenir. Mais ça veut dire que là, aujourd'hui, il a fallu tout de suite que je paye tout de suite le voyage retour, que j'avance l'argent avec les sous de la coopérative, comme on dit dans nos écoles. Donc voilà, moi, je ne pouvais pas renoncer à ce voyage. J'ai promis à mes gamins, ils étaient tout enthousiasme, j'allais pas leur dire « Ah ben non, finalement, on peut pas y aller. » Et puis c'est pour moi, c'était important d'y aller en train parce que justement, je fais de l'éducation et que je veux qu'ils prennent les transports en commun. Et je leur ai même donné les horaires du Métis ou de la ligne 1 pour pouvoir rejoindre la gare et être une demi-heure avant à la gare le matin pour partir. Et on reviendra en transport en commun grâce à nos transports en commun messins. Et puis, un autre exemple plus personnel, le 21 mars, je dois aller à Dijon pour le réseau francophone Ville Amis des Aînés. Bon, pour y aller, ça va encore le matin. Mais pour revenir, je vais devoir prendre le train à Dijon à 18h01, arriver à Paris-Lyon à 19h39, aller à la gare de l'Est où je partirai à 20h40, j'arriverai à Nancy à 22h18, de Nancy à 22h37 et à Metz à 23h30. Et le lendemain, j'ai classe. Voilà.
Merci, madame. Madame Collin-Austerlier, c'est bon ? Dominique Gros ?
Oui, c'est presque pareil, je n'ai rien à rajouter, j'étais à Dijon ce week-end. Je voudrais simplement demander une chose, c'est qu'on constitue ici un groupe de travail permanent sur les liaisons ferroviaires et qu'on invite les responsables de la SNCF. Je vous fais une proposition concrète qui pourrait être prise par le président par vos acclamations, si vous le voulez bien. On ne peut pas rester comme ça, aller à la pêche aux infos, à téléphoner à ceux qu'on connaît, à chercher dans notre calendrier telle et telle personne est-elle encore en service, qui change tout le temps en plus. Je pense qu'il faut qu'on ait ici un groupe de travail vigilant qui en permanence fasse pression pour savoir ce qui se passe.
Bien, merci. Je crois que nous partageons tous les mêmes préoccupations. Je voudrais donc collationner l'ensemble des données, ne pas rentrer à chaque fois dans le détail puisque c'est une motion que je vous propose qui va, je pense, dans le bon sens. On y ajoutera de toute façon les éléments pertinents qui ont été apportés les uns et les autres, notamment sur la question du TER. Moi, ce que je voulais souligner, c'est que, certes, nous avons rencontré le directeur du TGV Est, mais que, vous le savez, il y a un fonctionnement en silo de la part de la SNCF. Donc, je crois qu'il est plutôt pertinent d'aller directement sur la direction régionale peut-être, peut-être au-delà encore, mais pour trouver les bons directeurs qui s'occupent l'un du TER, l'autre du TGVS, l'autre du TGV Sud, etc. L'autre de Ouigo, parce que ce ne sont pas les mêmes directeurs. Donc il y a une complexité quand même organisationnelle qui conduit eh bien, à ce que nous venons d'entendre et qui est quand même assez surréaliste pour permettre évidemment que nous puissions contribuer avec à notre mesure eh bien, à faire en sorte que notre population et nos travailleurs puissent travailler dans les meilleures conditions, se déplacer dans les meilleures conditions possibles en termes de cadencement et autres, tels que les uns et les autres l'ont exprimé. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on collationne donc l'ensemble des doléances, qu'on le mette dans un cahier de doléances et qu'on l'envoie accompagner, donc en accompagnant la motion que je vous propose ce soir, pour au niveau de la présidence de la SNCF, et que nous prenions langue avec le président Guillaume Pepy, avec lequel nous travaillons par ailleurs, puisque je vous rappelle que c'est un des opérateurs indirects de notre réseau de transport en commun, ce qui nous donne d'une certaine manière une certaine peut-être autorité en la matière. Je crois que, en tout cas au niveau partenarial, il est important qu'on puisse le faire. Est-ce qu'il y a des oppositions? Une, j'avais noté donc Monsieur Cazin, et des abstentions, il n'y en a pas, donc c'est adopté à la quasi-unanimité. Voilà.